Alors, je vous présente les résultats d'une étude qui a été faite, qui s'est terminée en 2008. Et puis, on est en train de développer les phases qui vont suivre cette étude-là. Vous pouvez trouver les informations directement sur notre site Internet que vous voyez apparaître dans le coin supérieur à gauche. Donc, si vous voulez plus de détails sur cette étude, il y a plusieurs documents. Là, qui sont... Celui-ci est une sorte de synthèse des résultats. Alors, je vais vous parler un peu de l'étude. Surtout de deux éléments de l'étude. La méthode participative qui a été utilisée pour essayer d'intégrer dans le processus de recherche sur les impacts du climat et sur les solutions d'adaptation, intégrer les utilisateurs, les usagers finaux. Et aussi les méthodes qu'on a utilisées pour gérer la complexité du dossier tout en arrivant à des solutions d'adaptation qui soient quantitatives. Alors, je vais vous faire quelques conclusions. Alors, le golfe du Saint-Laurent est situé donc tout à fait à l'est du Québec. C'est un territoire assez grand, 350 000 km². Population de 400 000 habitants, donc très dispersé. Imaginez la superficie de l'Italie avec 400 000 habitants. L'étude a porté sur tout le golfe, mais on s'est concentré sur trois communautés, secteur de Sept-Îles, une ville industrielle, secteur de Percé, une toute petite ville, puis secteur des îles de Madeleine, qui est très isolé dans le golfe, et puis un milieu insulaire, de population d'environ 9 à 10 000 habitants. Je vous parle d'Ouranos, parce que l'étude a été pilotée par Ouranos, c'est un organisme frontière, j'en ai parlé un peu hier à l'atelier, pour ceux qui n'étaient pas dans cet atelier, simplement c'est un organisme qui a été créé en 2001, pour laquelle je travaille, qui, au Québec, est un peu l'endroit où se concentre la recherche sur l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est une sorte d'organisme sans but lucratif, mais qui est en partenariat avec quatre universités, huit ministères du gouvernement du Québec, un ministère fédéral qui est Environnement Canada, Hydro-Québec, donc un ensemble de partenaires qui délèguent des personnes pour travailler qui ont des personnes contribuées à Ouranos, mais aussi qui contribuent au fond, plus d'autres acteurs, environ 250 chercheurs qui sont affiliés. Alors, les changements climatiques dans le golfe de Saint-Laurent, ils ont plusieurs façons de produire de l'érosion ou des problèmes de submersion, comme vous voyez ici. Ça peut être la hausse du niveau marin, les surcotes causées par des tempêtes. Les tempêtes qui peuvent parfois être... combiner les effets de surcote et de fortes vagues, qui sont assez dommageables pour les infrastructures côtières, des pluies diluviennes qui nous viennent parfois par des ouragans tropicaux qui montent jusqu'au Québec. Vous voyez ce que ça peut faire à un réseau routier côtier sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent. Les empilements des glaces, quelque chose que vous ne voyez pas très souvent en France. Ça, c'est un truc qui s'est produit à peu près en une heure. 10 mètres d'accumulation de glace. Évidemment, si votre maison, ça donne à être là. Ben voilà. Et puis, il y a d'autres phénomènes, gel, dégel, etc. Je passe très vite là-dessus parce que ce que je veux souligner ici, c'est qu'on est dans un environnement où les processus climatiques qui contrôlent des variables hydrodynamiques, qui eux-mêmes agissent sur des processus côtiers, le nombre d'interactions est très, très grand. Et en général, sur une côte, il y a plusieurs facteurs qui travaillent en même temps. Et on ne connaît pas très bien les liens quantitatifs qui régissent la chaîne complète de cause à effet jusqu'à l'érosion des berges ou la submersion. Assez souvent, c'est la combinaison de plusieurs processus pour lesquels on n'a pas d'équation, de modèle quantitatif fonctionnel. Alors, ça pose déjà un problème au niveau scientifique. Le défi est de... Quand on veut savoir si un changement du climat va affecter les taux d'érosion, comment on fait pour mesurer l'effet de cette variation du climat sur le processus côtier? Alors, je vais vous parler un peu de ça. Un autre problème qui est assez complexe et qui nous interpellait beaucoup, c'est comment on arrive à l'adaptation. Quand on est face à un niveau de complexité comme celui-là, la tentation est grande de mettre tout le paquet, toute l'énergie sur la partie impact plutôt que sur la partie adaptation. D'ailleurs, on étudie le lien climat, hydrodynamique, on fait des modèles, on développe ceci, on développe cela. Puis à la fin, on a épuisé les budgets, on a passé tout le temps, et puis on n'a pas du tout commencé à faire de l'adaptation. On ne s'est pas intéressé encore à la question de l'adaptation. Il y a un danger de travailler pendant 20 ans sans jamais faire d'adaptation. Alors, à Wanos, la politique qu'on a adoptée, c'est que un cycle de recherche de 3 ou 4 ans doit absolument passer à travers, oui, des études biophysiques ou des études socio-économiques avec intégration, transfert de connaissances, mais cet élément-là est très important. Il doit être là. Et on n'est pas dans la mise en œuvre, mais on peut fournir un soutien technique ou scientifique et on fait un suivi d'adaptation pour préparer le prochain cycle. C'est un cycle qu'on s'impose. S'il n'y a pas de résultat en termes d'adaptation, si on n'est pas capable de voir qu'à la fin de notre étude, il y a une mise en œuvre qui s'amorce d'adaptation, qui se fait en termes d'adaptation, on considère que l'étude a manqué son coût. Alors, c'est un objectif assez drastique qui nous oblige à une certaine approche. Alors, dans le projet dont je vous parle, l'équipe de recherche est composée de 3 groupes. Et ça, c'était dans le but de respecter ce cycle-là. On a un groupe qui s'occupait des aspects climat, bon, biophysique, climat, etc., un aspect côtier, et un troisième groupe, qu'on appelle groupe usager, qui est le groupe qui travaille sur les solutions d'adaptation et qui est constitué essentiellement de décideurs, d'usagers qui vont être impliqués dans l'adaptation. Alors, pour ne pas risquer que ce groupe-là se retrouve coincé à la toute fin, on a structuré notre approche de manière à ce que les 3 travaillent en parallèle et non pas à la suite des uns des autres. Ceux-ci n'attendent pas les résultats de ceux-là ou de ceux-ci, des premiers, pour commencer à travailler. Je vous explique un peu comment on a fait ça. Alors ça, c'est l'équipe de recherche, mais vous voyez que les gens qui constituent le groupe, le comité d'adaptation, donc le groupe d'usagers, c'est des gens qui viennent de municipalités, ZIP, c'est zones d'intervention prioritaire, c'est des organismes communautaires, etc. Donc, c'est des gens qui sont signataires du rapport et qui travaillaient sur ces comités. Alors, je commence par la méthode participative qu'on a utilisée. Essentiellement, on s'est construit une espèce de petit modèle de comment fonctionne un peu le processus qui permet d'aller jusqu'à l'adaptation. Les intervenants, l'axe vertical, c'est l'axe de gouvernance. Ici, c'est l'axe scientifique, et dans celui-là, j'appelle ça l'axe sociétal. L'axe de gouvernance, bien, c'est tous les gens, à partir du milieu local jusqu'au milieu le plus centralisé, donc peut-être le premier ministre. Ici, bien, vous avez le Kidam qui a un hôtel sur le bord de la mer et puis qui décide de protéger sa propriété, aussi bien que la municipalité. Donc, plus vous allez dans cette direction, plus vous êtes au sommet de la structure hiérarchique, ou si on veut, plus vous êtes éloigné du milieu local. Ici, ben, c'est la même chose, c'est un axe où de côté, vous avez les gens qui travaillent sur le climat, l'hydrodynamique, la géomorphologie, les ingénieurs. Et de ce côté, vous avez un peu la dichotomie gauche-droite. C'est-à-dire que de ce côté-là, vous avez des entreprises, des gens qui regardent plutôt le côté propriété privée, protection de ma propriété, développement économique, etc. De l'autre côté, des gens qui s'intéressent à l'environnement, l'équité sociale, donc un peu la gauche. Je me résume, mais en étant très, très succinct. Et puis, évidemment, si vous êtes sur l'axe de gouvernance et que vous vous trouvez de ce côté-là, bien, vous risquez de ne pas prendre tout à fait les mêmes décisions que si vous êtes de ce côté-ci. Alors, ce qu'on sait de ce modèle-là, ce que ça nous dit, c'est que quand on essaie de mettre ensemble des gens qui sont aux extrémités des axes, en général, ils ne s'entendent pas très bien. Plus vous allez chercher un radical de gauche ou de droite, plus il y a de chances que la chicane poigne, comme on dit chez nous. Alors, pour éviter ça, ce qu'on a fait, nous, on a dit, on va concevoir le groupe, le comité, on va essayer de recruter des gens, d'amener des gens qui travaillent dans un noyau qu'on appelle un noyau de leadership. C'est-à-dire des gens qui sont plutôt au centre de l'axe, donc plus modérés, et qui constituent des leaders régionaux ou locaux, des fonctionnaires de ce qu'on appelle de niveau 2, c'est-à-dire des, qui ne sont pas en haut ici, mais qui sont suffisamment haut placés dans les gouvernements centraux pour avoir accès à ces gens-là, mais en même temps, ils sont très, très au courant de ce qui se passe localement. C'est des gens qui interviennent beaucoup au niveau local. Ici, on va chercher le plus possible des gens qui sont à la tête d'organisation. Évidemment, on ne va pas amener sur le comité un individu qui défend ses propres intérêts, mais plutôt, par exemple, s'il y a un groupement d'une association de riverains, bon, on va avoir les représentants de cette association-là, des groupes environnementaux, de la municipalité, etc. Donc, on a au début du projet, appelé des ateliers. On a travaillé avec des organismes locaux avec pour identifier les gens qui étaient susceptibles de pouvoir être intéressants dans ce domaine-là. Donc, on travaille avec... Et ça, c'est Uranus à cause de l'étendue des contacts à tous les niveaux. C'était assez facile pour nous de faire ça. Et on a donc convoqué des ateliers dans chacun des trois sites et on leur a demandé deux choses à ces gens-là. On a dit, bien, premièrement, on va faire une étude dans votre région et puis on leur a décrit un peu ce qu'on voulait faire. Donc, on leur demandait de déterminer les priorités de l'étude. On leur a dit, on voudrait que vous nous disiez quelle partie de la zone côtière vous voulez qu'on regarde. On ne pourra pas la regarder au complet, mais laquelle vous voulez qu'on étudie en particulier. Quelles sont les problématiques qui sont les plus importantes pour vous, etc. Donc, dans un premier temps, on leur demandait de déterminer le foyer, l'endroit où on va focaliser notre action. Deuxièmement, on leur a demandé de se constituer en comité. Souvent, il y était 35-40 personnes dans un atelier. On leur a demandé de choisir, soit parmi eux ou à l'extérieur, s'ils le voulaient, un groupe de 8 à 12 personnes qui allaient représenter l'ensemble de ces gens-là. Et c'est ce comité qui travaillerait. Il serait intégré au projet de recherche. Donc, on leur dit, vous êtes partie du projet de recherche. Vous avez le tiers du budget. Et c'est vous qui allez choisir les solutions d'adaptation. Les scientifiques qui sont là vont juste être là en appui. Donc, dans le rapport, c'est vous qui allez déterminer le contenu de ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est que la raison pour laquelle on a procédé comme ça, c'est qu'on voulait éviter qu'au niveau des communications, on reste pris dans le pattern habituel. Habituellement, les gens qui sont ici ont les moyens de se payer des études scientifiques. Alors, l'information scientifique leur est livrée, elle est ensuite dirigée vers le bas. Mais cet axe de gouvernance, il n'est pas neutre. Il y a toujours une espèce de négociation qui s'établit entre les gens qui sont ici et les gens qui sont là. Les demandeurs d'argent, de soutien sont généralement ici. Ceux qui répondent oui ou non sont là. Et il n'y a rien à faire. Ça se fait à différents niveaux, de façon formelle ou informelle. Et puis, donc, il y a un problème ici. L'exemple qui me vient à l'idée, c'est une négociation patronale syndicale. Ici, on demande des augmentations de salaire. Ici, on doit décider ce qu'on accorde. Et si le patron fait faire une étude par un expert, puis il se présente à la négociation et il dit, vous voyez, on a engagé un expert, et il a fait une étude et il paraît que notre entreprise est moins rentable que les autres, que vous êtes surpayé, que bon. Ben, l'expert, il n'y a pas beaucoup de crédibilité à ce niveau-là. Et c'est un peu le problème qu'on a ici, les scientifiques. Souvent, on va dans des assemblées publiques, etc. Et on s'aperçoit que les gens qui sont dans la salle ne nous croient pas. Ils ne nous croient pas parce qu'on est assis à côté des représentants du gouvernement, puis ils sont dans un contentieux avec le gouvernement. Alors, nous, on voulait plutôt un modèle où on dit, ben, on va mettre ensemble.
Alors, je vous présente les résultats d'une étude qui a été faite, qui s'est terminée en 2008. Et puis, on est en train de développer les phases qui vont suivre cette étude-là. Vous pouvez trouver les informations directement sur notre site Internet que vous voyez apparaître dans le coin supérieur à gauche. Donc, si vous voulez plus de détails sur cette étude, il y a plusieurs documents. Celui-ci est une sorte de synthèse des résultats. Alors, je vais vous parler un peu de l'étude, surtout de deux éléments de l'étude. La méthode participative qui a été utilisée pour essayer d'intégrer dans le processus de recherche sur les impacts du climat et sur les solutions d'adaptation, intégrer les utilisateurs, les usagers finaux. Et aussi les méthodes qu'on a utilisées pour gérer la complexité du dossier tout en arrivant à des solutions d'adaptation qui soient quantitative. Alors, je vais vous faire quelques conclusions. Alors, le golfe du Saint-Laurent est situé donc tout à fait à l'est du Québec. C'est un territoire assez grand, 350 000 km². Population de 400 000 habitants, donc très dispersé. Imaginez la superficie de l'Italie avec 400 000 habitants. L'étude a porté sur tout le golfe, mais on s'est concentré sur trois communautés, secteur de Sept-Îles, une ville industrielle, secteur de Percé, une toute petite ville, puis secteur des îles de Madeleine, qui est très isolé dans le golfe, et puis un milieu insulaire, population d'environ 9 à 10 000 habitants. vous parle d'Uranos parce que l'étude a été pilotée par Uranos. C'est un organisme frontière. J'en ai parlé un peu hier à l'atelier. Pour ceux qui n'étaient pas dans cet atelier, simplement, c'est un organisme qui a été créé en 2001 pour lequel je travaille, qui, au Québec, est un peu l'endroit où se concentre la recherche sur l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est une sorte d'organisme sans but lucratif, mais qui est en partenariat avec 4 universités, 8 ministères du gouvernement du Québec, un ministère fédéral qui est Environnement Canada, Hydro-Québec. Donc, un ensemble de partenaires qui délèguent des personnes pour travailler, qui ont des personnes contribuées à Uranos, mais aussi qui contribuent au fond, plus d'autres acteurs, environ 250 chercheurs qui sont affiliés. Alors, les changements climatiques dans le golfe de Saint-Laurent, ils ont plusieurs façons de produire de l'érosion ou des problèmes de submersion, comme vous voyez ici. Ça peut être la hausse du niveau marin, les surcotes causées par des tempêtes. Les tempêtes qui peuvent parfois être combiner des effets de surcotes et de fortes vagues, qui sont assez dommageables pour les infrastructures côtières. Des pluies diluviennes qui nous viennent parfois par des ouragans tropicaux qui montent jusqu'au Québec. Vous voyez ce que ça peut faire à un réseau routier côtier sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent. Les empilements des glaces, quelque chose que vous ne voyez pas très souvent en France. Ça, c'est un truc qui s'est produit à peu près en une heure. 10 mètres d'accumulation de glace. Évidemment, si votre maison, ça donne à être là. Ben voilà. Et puis, il y a d'autres phénomènes, gel, dégel, etc. Je passe très vite là-dessus parce que ce que je veux souligner ici, c'est qu'on est dans un environnement où les processus climatiques qui contrôlent des variables hydrodynamiques, qui eux-mêmes agissent sur des processus côtiers, le nombre d'interactions est très, très grand. Et en général, sur une côte, il y a plusieurs facteurs qui travaillent en même temps. Et on ne connaît pas très bien les liens quantitatifs qui régissent la chaîne complète de cause à effet jusqu'à l'érosion des berges ou la submersion. Assez souvent, c'est la combinaison de plusieurs processus pour lesquels on n'a pas d'équation, de modèle quantitatif fonctionnel. Alors, ça pose déjà un problème au niveau scientifique. Le défi est de, quand on veut savoir si un changement du climat va affecter les taux d'érosion, comment on fait pour mesurer l'effet de cette variation du climat sur le processus côtier. Alors, je vais vous parler un peu de ça. Un autre problème qui est assez complexe et qui nous interpellait beaucoup, c'est comment on arrive à l'adaptation. Quand on est face à un niveau de complexité comme celui-là, la tentation est grande de mettre tout le paquet, toute l'énergie sur la partie impact plutôt que sur la partie adaptation. On étudie le lien climat hydrodynamique, on fait des modèles, on développe ceci, on développe cela. Puis à la fin, on a épuisé les budgets, on a passé tout le temps, et puis on n'a pas du tout commencé à faire de l'adaptation. On ne s'est pas intéressé encore à la question de l'adaptation. Il y a un danger de travailler pendant 20 ans sans jamais faire d'adaptation. Alors, à Uranos, la politique qu'on a adoptée, c'est que un cycle de recherche de 3 ou 4 ans doit absolument passer à travers, oui, des études biophysiques ou des études socio-économiques avec intégration, transfert de connaissances, mais cet élément-là est très important. Il doit être là. Et on n'est pas dans la mise en œuvre, mais on peut fournir un soutien technique ou scientifique et on fait un suivi d'adaptation pour préparer le prochain cycle. C'est un cycle qu'on s'impose. S'il n'y a pas de résultat en termes d'adaptation, si on n'est pas capable de voir qu'à la fin de notre étude, il y a une mise en œuvre qui s'amorce d'adaptation, qui se fait en termes d'adaptation, on considère que l'étude a manqué son coup. Alors, c'est un objectif assez drastique qui nous oblige à une certaine approche. Alors, dans le projet dont je vous parle, l'équipe de recherche est composée de 3 groupes. Et ça, c'était dans le but de respecter ce cycle-là. On a un groupe qui s'occupait des aspects climat, biophysique, climat, etc. Un aspect côtier. Et un troisième groupe, qu'on appelle le groupe usager, qui est le groupe qui travaille sur les solutions d'adaptation et qui est constitué essentiellement de décideurs, d'usagers qui vont être impliqués dans l'adaptation. Alors,
Pour ne pas risquer que ce groupe-là se retrouve coincé à la toute fin, on a structuré notre approche de manière à ce que les trois travaillent en parallèle et non pas à la suite des uns des autres. Ceux-ci n'attendent pas les résultats de ceux-là ou de ceux-ci, les premiers, pour commencer à travailler. Je vous explique un peu comment on a fait ça. Alors ça, c'est l'équipe de recherche, mais vous voyez que les gens qui constituent le groupe, le comité d'adaptation, donc le groupe d'usagers, c'est des gens qui viennent de municipalités, ZIP, ces zones d'intervention prioritaire, c'est des organismes communautaires, etc. Donc, c'est des gens qui sont signataires du rapport et qui travaillaient sur ces comités. Alors, je commence par la méthode participative qu'on a utilisée. Essentiellement, on s'est construit une espèce de petit modèle de comment fonctionne un peu le processus qui permet d'aller jusqu'à l'adaptation. Les intervenants, l'axe vertical, c'est l'axe de gouvernance. Ici, c'est l'axe scientifique, et dans celui-là, j'appelle ça l'axe sociétal. L'axe de gouvernance, bien, c'est tous les gens, à partir du milieu local jusqu'au milieu le plus centralisé, donc peut-être le premier ministre. Ici, bien, vous avez le Kidam qui a un hôtel sur le bord de la mer et puis qui décide de protéger sa propriété, aussi bien que la municipalité. Donc, plus vous allez dans cette direction, plus vous êtes au sommet de la structure hiérarchique, ou si on veut, plus vous êtes éloigné du milieu local. Ici, bien, c'est la même chose, c'est un axe où, de côté, vous avez les gens qui travaillent sur le climat, l'hydrodynamique, la géomorphologie, les ingénieurs. Et de ce côté, vous avez un peu la dichotomie gauche-droite. C'est-à-dire que de ce côté-là, vous avez des entreprises, des gens qui regardent plutôt le côté propriété privée, protection de ma propriété, développement économique, etc. De l'autre côté, des gens qui s'intéressent à l'environnement, l'équité sociale, donc un peu la gauche. Je me résume, mais en étant très, très succinct. Et puis, évidemment, si vous êtes sur l'axe de gouvernance et que vous vous trouvez de ce côté-là, bien, vous risquez de ne pas prendre tout à fait les mêmes décisions que si vous êtes de ce côté-ci. Alors, ce qu'on sait de ce modèle-là, ce que ça nous dit, c'est que quand on essaie de mettre ensemble des gens qui sont aux extrémités des axes, en général, ils ne s'entendent pas très bien. Plus vous allez chercher un radical de gauche ou de droite, plus il y a de chances que la chicane poigne, comme on dit chez nous. Alors, pour éviter ça, ce qu'on a fait, nous, on a dit, on va concevoir le groupe, le comité, on va essayer de recruter des gens, d'amener des gens qui travaillent dans un noyau qu'on appelle un noyau de leadership. C'est-à-dire des gens qui sont plutôt au centre de l'axe, donc plus modérés, et qui constituent des leaders régionaux ou locaux, des fonctionnaires de ce qu'on appelle de niveau 2, c'est-à-dire des, qui ne sont pas en haut ici, mais qui sont suffisamment haut placés dans les gouvernements centraux pour avoir accès à ces gens-là, mais en même temps, ils sont très, très au courant de ce qui se passe localement. C'est des gens qui interviennent beaucoup au niveau local. Ici, on va chercher le plus possible des gens qui sont à la tête d'organisation. Évidemment, on ne va pas amener sur le comité un individu qui défend ses propres intérêts, mais plutôt, par exemple, s'il y a un groupement d'une association de riverains, bon, on va avoir les représentants de cette association-là, des groupes environnementaux, de la municipalité, etc. Donc, on a Au début du projet, appelé des ateliers, on a travaillé avec des organismes locaux pour identifier les gens qui étaient susceptibles de pouvoir être intéressants dans ce domaine-là. Donc, on travaille avec... Et ça, c'est Uranus à cause de l'étendue des contacts à tous les niveaux. C'était assez facile pour nous de faire ça. Et on a donc convoqué des ateliers dans chacun des trois sites. Et on leur a demandé deux choses à ces gens-là. On a dit, bien, premièrement, on va faire une étude dans votre région. Et puis, on leur a décrit un peu ce qu'on voulait faire. Et on leur demandait de déterminer les priorités de l'étude. On leur a dit, on voudrait que vous nous disiez quelle partie de la zone côtière vous voulez qu'on regarde. On ne pourra pas la regarder au complet, mais laquelle vous voulez qu'on étudie en particulier. Quelles sont les problématiques qui sont les plus importantes pour vous, etc. Donc, dans un premier temps, on leur demandait de déterminer le foyer, l'endroit où on va focaliser notre action. Deuxièmement, on leur a demandé de se constituer en comité. Souvent, il y avait 35-40 personnes dans un atelier. On leur a demandé de choisir, soit parmi eux ou à l'extérieur, s'ils le voulaient, un groupe de 8 à 12 personnes qui allaient représenter l'ensemble de ces gens-là. Et c'est ce comité qui travaillerait. Il serait intégré au projet de recherche. Donc, on leur dit, vous êtes partie du projet de recherche. Vous êtes... Vous avez le tiers du budget et c'est vous qui allez choisir les solutions d'adaptation. Les scientifiques qui sont là vont juste être là en appui. Donc, dans le rapport, c'est vous qui allez déterminer le contenu de ça. Alors, Ce qu'on a fait, c'est que la raison pour laquelle on a procédé comme ça, c'est qu'on voulait éviter qu'au niveau des communications, on reste pris dans le pattern habituel. Actuellement, les gens qui sont ici ont les moyens de se payer des études scientifiques. Alors, l'information scientifique leur est livrée, elle est ensuite dirigée vers le bas. Mais cet axe de gouvernance, il n'est pas neutre. Il y a toujours une espèce de négociation qui s'établit entre les gens qui sont ici et les gens qui sont là. Les demandeurs d'argent, de soutien sont généralement ici. Ceux qui répondent oui ou non sont là. Et il n'y a rien à faire. Ça se fait à différents niveaux, de façon formelle ou informelle. Et puis, donc, il y a un problème ici. L'exemple qui me vient à l'idée, c'est une négociation patronale syndicale. Ici, on demande des augmentations de salaire. Ici, on doit décider ce qu'on accorde. Et si le patron fait faire une étude par un expert, puis il se présente à la négociation et dit, vous voyez, on a engagé un expert, et il a fait une étude et il paraît que notre entreprise est moins rentable que les autres, que vous êtes surpayé, que bon. Ben, l'expert, il n'y a pas beaucoup de crédibilité à ce niveau-là. Et c'est un peu le problème qu'on a ici, les scientifiques. Souvent, on va dans des assemblées publiques, etc. Et on s'aperçoit que les gens qui sont dans la salle ne nous croient pas. Ils ne nous croient pas parce qu'on est assis à côté des représentants du gouvernement, puis ils sont dans un contentieux avec le gouvernement. Alors, nous, on voulait plutôt un modèle où on dit, ben, on va mettre ensemble, par exemple, le secteur dont je vous parlais, ben, il y a eu du développement résidentiel, etc. Ils ont asséché les tourbières. Donc, on sait qu'il y a d'autres problèmes qui ont aggravé la situation. Quand c'est le cas, on utilise le scénario S3. Il est probable que ça va être encore pire parce que le développement se continue. Alors, à la fin, on est capable de leur dire, vers la fin du projet, OK, vous avez identifié des solutions. Ben, celles que nous, les scientifiques, on vous recommande de considérer dans le rapport, c'est la S2 ou la S3. Dans d'autres cas, c'est la S1 si le bilan sédimentaire est positif. Parfois même, on dit, ben, on s'attend à une inversion. On s'attend à ce que cette plage-là reçoive plus de sédiments. Bon. Et la plupart du temps, avec des méthodes analogiques assez simples, on arrive quand même à pouvoir discriminer entre des scénarios. Alors, c'est une approximation, mais au moins, ça permet de faire des choix de solutions. Et ça a fonctionné. Ces choix-là ont été mis dans le rapport. Et puis, il y a eu des résultats. Et ces résultats-là sont assez importants. Il y a des adaptations qui ont été faites aux Îles-de-la-Madeleine, par exemple. Ben, un protocole d'entente a été signé entre la municipalité et le gouvernement du Québec. Le ministère des Transports a accepté de changer complètement ses pratiques et de remplacer des endroits où il y a de l'enrochement par de la recharge en sable pour augmenter la durée de la route pour un certain temps, en acceptant qu'ils vont devoir la déplacer. La ville a décidé, et avec les citoyens, avec leur participation de tous les acteurs, ont décidé en commun de laisser 95% du territoire sans défense côtière parce qu'ils estimaient que ça menaçait leur paysage et ils veulent garder leur paysage. Par contre, ils ont refait des choix. Au lieu de chercher à protéger des chalets, des maisons, ils ont identifié les éléments, l'hôpital, tel objet, telle chose qu'ils veulent absolument garder, ils ont limité la protection uniquement à ces endroits-là en utilisant des méthodes de protection qui sont les moins invasives ou les moins rigidifiantes possibles. Alors, ils ont fait des choix intéressants. Par contre, on a eu des conséquences étonnantes. C'est les gens qui étaient en haut de l'axe de gouvernance qui ont mal réagi à certains de nos approches parce que eux cédaient un peu de leur pouvoir de contrôle sur l'information. Et ils se sentaient insécures par ça. Alors, on s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas fait assez d'efforts pour les sensibiliser, les décideurs qui étaient en haut de l'axe de gouvernance, des bénéfices d'avoir un vrai partage de l'information entre tous les acteurs de l'adaptation. Mais je dirais que le bilan a été très positif. Maintenant, ça devient un peu la norme pour nos projets, ce moyen. Alors voilà, j'ai terminé.
Merci.